Et on commence avec une étude parue dans Journal of Environmental Chemical Engineering, une étude qui décrit un nouveau bio-ciment fabriqué à partir d'urine et de déchets.
Alors aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on produit chaque année environ 4,6 milliards de tonnes de ciment. Et c'est une industrie particulièrement polluante, sur plein de niveaux. L'extraction du sable, les mines de calcaire et les fours à ciment qui montent à 1000 degrés. La consommation énergétique et le bilan carbone de ce secteur sont très très élevés. Alors depuis quelques années, on cherche donc des alternatives durables et à valoriser ce qu'on regardait jusqu'à présent comme des déchets. Et c'est ce qu'a fait cette équipe de Singapour. Les chercheurs ont fabriqué du ciment en recyclant deux types de déchets, de l'urée, de l'urine de mammifères et de la boue de carbure qui est rejetée lors de la production de gaz acétylène. Cette méthode de fabrication fonctionne in situ et à température ambiante. Cette étude, qui propose une preuve de concept, démontre la faisabilité de ce procédé. Jérôme Morchin est enseignant-chercheur à l'INSA de Toulouse et au TBI, Toulouse Biotechnology Institute.
Le principe de ce bio-ciment, c'est d'utiliser des matériaux à faible coût, donc typiquement de l'urée, qui aujourd'hui peut être récupérée dans des systèmes de collecte de l'urine. Ils utilisent cette urine pour enrichir des cultures bactériennes en micro-organismes qui sont justement capables de dégrader cette urée. Et ces micro-organismes, ils les récupèrent à partir d'une station d'épuration. Donc c'est déjà des micro-organismes qui sont capables de dégrader ces matières-là. Et cette dégradation de l'urée va donc conduire à des ions ammonium d'une part et à des ions carbonate d'autre part. Et pour fabriquer le carbonate de calcium qui va cristalliser dans un lit de grains de sable, ils utilisent pour le calcium un déchet d'un autre procédé industriel. En particulier, ils ont analysé les qualités mécaniques du ciment, puisque c'est bien sûr la première spécification d'importance pour avoir un matériau qui soit utilisable. Je pense que ça fonctionne assez bien, puisque en fait, ils opèrent la cristallisation directement dans le lit de sable. L'idée intéressante, c'est de réaliser cette précipitation in situ, c'est-à-dire avec un lit de grains de sable déjà en place, et finalement de venir ponter entre ces grains de sable en effectuant des couches successives de cristallisation et donc d'avoir une approche directe de fabrication du matériau in situ. Là, le fait de fabriquer les matériaux, les ions initiaux nécessaires à faire la carbonatation, le fait de faire cette opération à température ambiante, évidemment, économise beaucoup d'énergie.
Alors, quelles sont les possibilités d'application à grande échelle de ce nouveau bio-ciment ?
Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le dire, et d'ailleurs les auteurs le précisent. Et puis également l'aspect analyse du cycle de vie du procédé, savoir si ces ciments sont durables en termes de résistance à plus long terme. L'aspect vieillissement sera sans doute quelque chose d'assez important avant d'envisager une industrialisation massive.
Et si vous voulez retrouver bien justement l'étude et la composition dans le détail de cette nouvelle forme de bio-ciment, et bien comme d'habitude, on vous poste les liens sur notre fil Twitter que vous pouvez retrouver plus tard sur la page de l'émission sur le tout nouveau et tout beau site franceculture.fr. Et on passe au bref. L'enquête, l'OMS enquête sur les cas de monkeypox ou variole du singe.
Oui, depuis le 7 mai, 18 cas avérés ont été repérés en Angleterre, dont 2 hospitalisations. Le premier cas était un voyageur de retour du Nigeria. Depuis, des cas ont été identifiés au Portugal, en Espagne, en Italie et désormais aux États-Unis et au Canada. Le monkeypox est causé par un virus apparenté à la variole qui est normalement confiné à l'Afrique de l'Ouest et centrale. Cette maladie se transmet essentiellement par contact direct ou par goutte respiratoire. Elle provoque un état grippal, puis une éruption cutanée. La létalité est faible et la plupart des personnes se rétablissent sans traitement dans les 14 à 21 jours. L'Agence britannique de sécurité sanitaire affirme que les cas concernaient principalement des hommes qui s'identifient comme homosexuels ou bisexuels et soupçonnent une contamination par les muqueuses.
Selon une étude parue dans la revue The British Medical Journal, le vaccin contre le SARS-CoV-2 aurait également un effet contre le Covid long.
Oui, des chercheurs anglais ont observé les données dans le temps de plus de 28 000 Britanniques âgés de 18 à 69 ans vaccinés après avoir été infectés par le virus. 24% des participants souffraient de Covid long. il se trouve que même après avoir été infecté, la vaccination contre le SARS-CoV-2 a des effets sur les symptômes persistants, et en particulier après 2 doses. Se faire vacciner réduit les risques de Covid long de 13%, avec 2 doses, ce risque passe à 9%. Selon les auteurs, les vaccins agiraient sur les particules virales qui pourraient persister après l'infection initiale.
Et enfin, la sonde Barker Solar Probe vient de dévoiler de sublimes images inédites de notre Soleil.
Et le 26 mars dernier, la sonde s'est approchée au plus près de notre étoile, à une distance d'environ 48 millions de kilomètres, où les températures frôlent les 500 degrés Celsius. Les 10 instruments embarqués ont pu enregistrer les détails de son pôle sud, une région qui habituellement est difficile à étudier depuis la Terre. L'ESA vient de publier l'image la plus haute résolution jamais réalisée du Soleil. On vient de vous poster cette vidéo hypnotique. Et ce n'est que le début de la mission. D'ici 2030, un Parker Solar Probe va se rapprocher encore plus près, jusqu'à 40 millions de kilomètres du Soleil.
Voilà, et on vous suggère d'aller jeter un coup d'œil à cette magnifique vidéo, effectivement totalement hypnotique, et bien assez fascinante de notre bel astre solaire.